Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Thibaut de Chassé au micro pour cette nouvelle séance du Libre Journal de la France Profonde. Très heureux de vous retrouver sur Radio Courtoisie. Alors exceptionnellement, cette émission ne sera pas diffusée, n'est pas diffusée en direct. Elle a été préenregistrée le 16 juillet dernier, voilà, pour être précis, pour les raisons habituelles à cette période de l'année. Donc vous ne pouvez pas faire part de vos questions ou de vos remarques pendant l'émission, mais évidemment, n'hésitez pas à nous écrire ensuite hein, pour nous dire ce que vous en avez pensé ou faire des suggestions. Voilà, vous pouvez m'écrire à l'adresse de la radio, au Libre Journal de la France Profonde, Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75016 Paris, ou par le site de la radio, voilà, par Internet. Voilà, alors sans plus tarder, une petite annonce avant de nous lancer dans notre programme de ce soir, qui est riche et qui devrait, je l'espère, vous intéresser. Alors, en ce qui concerne le monde du livre, je signale que la librairie française, qui se situe dans le 15e arrondissement de Paris, 202 rue Lecourbe, entre les métros Vaugirard et Commerce, eh bien, sera ouverte tout l'été, voilà, durant tout le mois d'août, du mardi au samedi, l'après-midi. On peut y retrouver un très grand choix de bons livres classiques ou des nouveautés dans les domaines de l'histoire, bien sûr, aussi de la religion, de la philosophie, de la politique, des questions de société et un peu de la littérature aussi. Voilà. On peut retrouver les informations concernant la librairie et puis notamment les événements qu'elle organise régulièrement sur son site librairiefrançaise.fr. Et aussi par téléphone, 01 83 62 98 12. Voilà, alors aujourd'hui, l'émission sera consacrée à deux thèmes historiques. Voilà, nous ne nous pencherons pas sur l'actualité, bien qu'il y ait des choses à dire dans cette période chargée et puis un peu sinistre aussi, il faut bien le dire. Alors tout d'abord, dans une première partie, nous retournerons vers le monde gaulois et celtique, que nous avions déjà exploré un petit peu en février dernier. Et nous y reviendrons donc avec le même invité, Alain Débert, que je vais vous présenter dans quelques instants. Et puis ensuite, dans la deuxième partie, j'aurai le plaisir de recevoir Mauricette Vial-Andru, qui est une habituée de ce micro et de cette émission en particulier, à l'occasion de la parution d'un de ses nombreux livres. Donc c'est un petit livre consacré cette fois à la figure extraordinaire et magnifique de Saint Jean l'Évangéliste. Voilà. Mais tout de suite, je me tourne vers mon invité que je reçois par la magie du téléphone, Alain Débert. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Merci d'être avec nous à nouveau. Alors, vous étiez intervenu en février dernier, donc les auditeurs pourront retrouver cette émission sur le site de la radio, dans une émission du Libre Journal de la France Profonde de février 2026. J'avais eu le plaisir de vous recevoir et l'émission avait été jugée très intéressante pour un entretien à propos des armées gauloises et celtiques. C'est le titre d'ailleurs d'un livre que vous avez fait paraître chez aux éditions Ellipse. Voilà, un livre volumineux, une belle somme, hein, avec une approche universitaire, et puis un cahier photo avec des illustrations et puis des schémas. Je vous présente à nouveau en quelques instants. Vous êtes docteur en histoire, diplômé de la Sorbonne, spécialiste d'histoire militaire, ancien officier supérieur. Vous avez été rédacteur au service historique de l'armée de terre et aussi professeur d'histoire militaire aux écoles de Saint-Cyr-Couët-Quidan. Et vous avez déjà fait paraître plusieurs ouvrages sur les Gaulois et la guerre, et sur certaines batailles. D'ailleurs, depuis notre dernière émission, notre dernier entretien en février, un nouveau livre est paru, toujours aux éditions Ellipse. Et cette fois, il s'intitule « Les guerres gauloises », avec préface de Yann Le Boeck, qui est aussi une référence dans le domaine de l'histoire antique militaire. Ce sera peut-être l'occasion d'un prochain entretien, ce nouveau livre. En tout cas, dans l'immédiat.
Si vous le souhaitez.
Oui. Dans l'immédiat.
Oui, je dis si vous le souhaitez, il n'y a pas de problème.
Oui. Non, mais très volontiers. Alors, dans l'immédiat, je me retourne vers ce magnifique livre que j'ai en main, Les armées gauloises et celtiques, que vous avez fait paraître aux éditions Ellipse. Alain Débert, je rappelle que votre nom s'écrit D-E-Y-B-E-R. Alors voilà, lors de notre premier entretien, nous avions tenté de dresser un peu un tableau général de la situation du monde celtique et gaulois dans cette antiquité d'avant le Christ, hein, grosso modo, avant de nous pencher vraiment en profondeur sur les questions militaires. Et ça, c'est vraiment le cœur de votre sujet, l'aspect militaire. Nous avions évoqué déjà la question des sources, évidemment, qui n'est pas facile, hein, en ce qui concerne le monde celtique et surtout gaulois, puisque c'était une civilisation de l'oral et que les principales sources sont grecques et romaines et doivent donc être prises avec une certaine prudence. Voilà, il y a aussi les sources archéologiques que nous avons un petit peu évoquées. Et puis la société gauloise, sa géographie, son climat, son organisation sociale aussi un petit peu. Nous avons rappelé que c'était tout de même un monde guerrier. Les Gaulois ont connu de façon quasiment incessante la guerre. Ils sont allés la porter assez loin, jusque dans la péninsule italienne et puis dans les Balkans et même en Asie mineure, en actuelle Turquie. Donc une très forte tradition militaire, aussi une tradition du mercenariat, nous l'avions évoqué brièvement. Les Gaulois ont fourni leurs services, voilà, sous différentes latitudes, sous différents climats, jusque chez Hérode, hein, en Palestine, il y avait une garde gauloise. Sans oublier bien sûr les guerres internes, hein, aux peuplades gauloises. Alors ça, c'est un aspect qui est assez connu, bien que superficiellement. Voilà. Alors pour terminer, de dresser un petit peu le tableau général de cette société gauloise, avant de nous pencher à nouveau sur l'aspect militaire proprement dit, il y a un aspect que nous n'avions pas eu le temps vraiment d'aborder. Je voudrais réparer cela, si vous le voulez bien, brièvement. C'est la question de l'économie, qui peut avoir aussi quand même un rôle dans l'aspect militaire et dans le déclenchement de crises ou de conflits. Que pouvons-nous dire de cette économie gauloise, notamment l'agriculture, l'artisanat? Il me semble quand même important de rappeler que les Gaulois, bien qu'il y ait une très forte tradition guerrière, ne sont pas que des guerriers rustres et sauvages.
Oui, tout à fait. De toute façon, ce sont des gens qui appartiennent déjà à une civilisation profondément rurale, hein, depuis la fin de la préhistoire. Donc, au fil du temps, l'économie s'est développée, notamment l'agriculture a fait des progrès importants. Dans le domaine de la sélection des espèces, des graines, etc. Donc, ils ont pu constituer au fil des ans des réserves de plus importantes. Parallèlement, l'artisanat et l'industrie, entre guillemets, se sont développés. Les gens de cette époque ont créé énormément d'outils, pratiquement. L'outillage qu'on utilisait encore au XIXe siècle pratiquement avait déjà été créé et mis en place 2000 ans plus tôt, si ça n'est plus. Voilà. Bon, alors tout cela a créé des conditions favorables, évidemment, pour mener des campagnes de plus en plus importantes, de plus en plus longues, de plus en plus loin, engageant des effectifs de plus en plus nombreux. Voilà, c'est en cela que l'économie de cette époque est importante, et j'ai évidemment, là, en quelques mots, il est difficile de résumer tout ce que j'ai pu écrire, mais je crois quand même que c'est un facteur très très important qui explique pourquoi ces guerres, la répétition pratiquement, et voilà, donc je pense que c'est une chose qui a été assez peu étudié par les historiens jusque dans aux années 1970 environ. Voilà ce que je peux vous dire en gros.
Oui, d'accord. Bon. Les Gaulois étaient non seulement des guerriers fameux, mais aussi de grands agriculteurs et des artisans très talentueux. Voilà. Mais ils avaient aussi dépassé le stade, alors je parle sous votre contrôle évidemment, ils avaient dépassé le stade des structures familiales voilà, auxquelles on a parfois tendance à les cantonner. Il y avait quand même des villages qui pouvaient, ou des bourgs qui pouvaient rassembler quelques milliers de personnes avec des infrastructures remarquables. Je me souviens quand voilà, j'ai retrouvé cet article qui signale qu'en 2015, on a fait une découverte importante dans le Puy de Dôme. On a découvert une centaine de cavités, des sortes de silos pouvant contenir entre 200 kilos ou plus d'une tonne et plus d'une tonne de céréales. Alors, ça pouvait être autre chose que des céréales, mais enfin, une capacité de stockage tout à fait impressionnante quoi, pour l'époque, et qui montre aussi donc, un certain degré de développement. Bon, très bien. Nous avions évoqué l'organisation tripartite hein, de la société gauloise, hein, qui donc organisation mise en valeur par Georges Dumézil et qu'on retrouve dans toute l'ère d'expression indo-européenne. Et nous nous étions penchés un petit peu, nous avions commencé, avant de devoir nous arrêter, sur la classe sacerdotale. Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu qui fait partie dans le monde gaulois de cette classe? Il n'y a pas que les druides, dont on sait d'ailleurs finalement peu de choses. Qui sont les autres représentants de cette classe? Et peut-on y inclure les bardes, par exemple?
Le personnel sacerdotal est connu par César, mais il n'en dit pas grand-chose. On a l'impression, enfin, plusieurs historiens d'ailleurs se sont penchés là-dessus, ces gens-là ont certainement été pour le proconsul des ennemis déclarés. Et donc, ils n'aimaient pas trop en parler. Alors, il y avait donc parmi eux ce qu'on appelle d'un nom gaulois le Gutuater, qui était apparemment un chantre, un invocateur. Il y avait d'autre part le Vaté, qui est un technicien, un sacrificateur. Et ces sacerdotesses, suivaient les armées. Il y avait aussi un certain nombre de femmes, de prophétesses, donc de druidesses, qui interrogeaient les sorts, avant notamment chaque d'entamer une bataille, pour savoir si les sorts étaient favorables ou s'ils ne l'étaient pas. Ces gens-là ont occupé des rôles relativement importants, mais on a relativement peu d'informations sur eux. Alors, on en trouve aussi chez d'autres historiens, comme Diodore de Sicile et Strabon, mais c'est toujours pareil, hein, c'est le point de vue de l'ennemi. Oui. Donc, quelle valeur doit-on accorder à ce qu'ils disent sur les membres de la classe sacerdotale? C'est difficile. Alors, ce qu'on sait aussi, ce qui est intéressant, c'est que apparemment, on ne restait pas toute sa vie membre de cette classe, notamment les druides. Les grandes familles, évidemment, se répartissaient les charges et les honneurs au sein de la société. Mais on pouvait être druide une année et puis avoir une autre fonction l'année suivante. On pouvait être nommé à la tête d'une armée ou exercer des fonctions de fergobré, c'est-à-dire donc de magistrat, de juge, au sein de sa cité. Ce qui est important, c'est que il y avait aussi des règles. Alors ces règles, au sein de la société, on les connaît assez mal par les sources latines, mais en revanche, il faut interroger évidemment les sources celtiques d'outre-Manche, hein, donc notamment irlandaises et galloises, pour en savoir un peu plus.
Oui.
Voilà. Mais oui, c'est oui. Déjà quelque chose qui est très organisé et enfin personnellement, mais je n'ai pas été le seul à proposer cette hypothèse, je pense que ces gens-là ont été l'âme de la résistance à la pénétration de Rome sur leur territoire.
Oui, D'accord. Et
Même pas.
Rome, oui, pardon.
Oui, non, mais ce que je voulais dire aussi, c'est que de toute façon, en histoire comparée, on retrouve ça dans d'autres civilisations, hein. Il n'y a pas uniquement la civilisation gauloise. Donc, c'est important, et jusqu'à une époque très récente, pour ne citer que le conflit qui oppose actuellement les États-Unis et Israël à l'Iran. Il est certain que les mollahs, pendant de nombreuses années, ont été des animateurs de la résistance, d'abord au Shah, et ensuite, évidemment, à l'influence occidentale.
Ouais. Et pour en revenir aux druides, alors cette hostilité qu'ils avaient envers l'envahisseur romain, Rome leur a bien rendu, hein, si je ne dis pas de sottises, puisqu'après la conquête romaine, les nouvelles autorités se sont évertuées à effacer la religion gauloise, la religion des druides. Et c'est aussi pour ça, couplé au fait que il n'y avait pas de tradition écrite, qu'on n'en sait plus grand-chose
Alors,
et qu'elle a disparu.
ça se comprend très bien parce que à Rome, le religieux n'occupe pas la première place. Chez les Celtes en général et les Gaulois en particulier, c'est le religieux qui prime sur le reste. Donc, effectivement, le conquérant ne pouvait pas supporter ça, il ne pouvait pas l'admettre. Et le César le savait très bien puisqu'il avait été pendant un temps grand pontife à Rome, donc chef de la religion officielle. Et donc, l'activité des druides ne lui facilitait certainement pas les choses.
Oui, bien sûr. Bon, très bien. Nous avions aussi commencé à évoquer la dernière fois, lors de notre entretien de février, le côté quand même assez superstitieux du monde gaulois et son influence dans l'histoire militaire de la Gaule. Vous aviez rappelé ce fait assez peu connu que à Alésia, la nuit précédant la dernière bataille, il y a eu une éclipse totale de lune. Et cela a fortement découragé ou même démobilisé les combattants gaulois, et donc à la faveur
Alors,
des Romains.
oui, mais il y avait déjà eu un précédent à Avaricum, lors du siège d'Avaricum, donc qui est actuellement la ville de Bourges, puisque la veille de la prise de la place forte, il y avait déjà eu aussi une éclipse de lune.
Oui.
Et ce qui fait que ça a provoqué une certaine agitation parmi les réfugiés et la population résidente de cette ville. César en parle, mais en fait, César ne dit pas exactement ce qui s'est passé. Il faut pouvoir décrypter. Mais en fait, en réalité, ça a considérablement perturbé les occupants de la place. Et dans la religion gauloise, dans les superstitions, c'était toujours un très mauvais signe. Donc, effectivement, pour eux, l'interprétation qu'ils en ont fait, c'est que, mon Dieu, ben, les choses n'allaient pas très bien se passer. Et le lendemain, à Bourges, il y a eu en plus un très violent orage, que l'armée romaine a utilisé d'ailleurs pour pouvoir approcher une tour d'assaut près du rempart et donc monter sur celui-ci. Puisque la plupart une grande partie des défenseurs sont allés se mettre à l'abri. Alors, ils vont pas se mettre à l'abri pour se mettre à l'abri de la pluie, mais c'est tout simplement parce que c'est encore un signe des dieux et qui est très défavorable.
Oui, je comprends.
Et y a d'autres, il y a on a heureusement encore d'autres exemples. La bataille de Noria qui s'est déroulée en Carinthie, pardon, en 113 avant Jésus-Christ, donc où les Romains ont rencontré une armée de Gaulois et mêlée de Germains en provenance des rives de la Baltique, pratiquement, alors que les Gaulois étaient prêts à remporter la victoire. Un très violent orage s'est déclenché et ils ont arrêté le combat. ce qui a sauvé l'armée romaine.
Ah,
parce
oui.
qu'autrement, elle aurait été certainement anéantie.
Oui.
Voilà. Donc, effectivement, alors à Alésia, s'est reproduit le même phénomène, du moins, on le pense, hein, c'est une hypothèse que David Romeuf, qui a découvert cette, qui est un astronome, qui a découvert cette éclipse de lune, en reprenant donc le texte de César, et en voyant donc tout autour également tout ce qu'on pouvait rassembler comme élément de comparaison, c'est probablement ce qui s'est passé.
Oui. Très bien, c'est très intéressant. Alors, puisque nous parlons un peu de religion et de superstition, est-ce qu'on peut évoquer un petit peu le chapitre que vous consacrez aux religieux, aux armées, si, voilà, pour reprendre votre expression, notamment dans le processus de décision d'entrée en guerre.
Oui.
Qui sont donc oui. ces responsables religieux à qui on accorde un rôle si important.
Ah ben, la guerre, de toute façon, revêtait des formes très, très différentes. Bon, il y a des guerres de conquête, évidemment, oui. mais à cette époque-là, en tout cas, pratiquement à la fin du IIIe siècle, les Gaulois avaient cessé de lancer des opérations à longue distance. Les peuples s'étaient relativement stabilisés sur un certain nombre de territoires, mais la stabilité était quand même très 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 relative. Bon, donc à partir de là, ce sont plutôt des guerres internes.
Mmh.
Et puis évidemment, Rome va rentrer sur la scène déjà à partir de 125 avec la conquête de la Gaule méditerranéenne, hein, qui va donc permettre à la République romaine de relier ses possessions en Hispanie à la botte italienne. Et puis, à partir de 58, la guerre des Gaules proprement dite, enfin, ce que César a appelé la guerre des Gaules, hein, qui va consister à conquérir le reste du pays.
Mmh. Oui. Alors, comment se passe quel est l'aspect religieux qui rentre en compte dans la décision d'entrer en guerre ?
Bah, y a toute une série de cérémonies, de rites sur le détail desquels on ne connaît pas grand-chose. Hein.
Mm-hmm.
Mais dans toutes les civilisations antiques, c'est comme ça. Bon, il y avait bien évidemment un échange entre les responsables politiques, un échange d'ambassadeurs, et puis lorsque la guerre devient inévitable, bon, ben, à ce moment-là, évidemment, on mobilise, la mobilisation se déroule de différentes manières, on pourra peut-être revenir dessus tout à l'heure,
mmh.
L'armée se concentre en un point, et ensuite elle va faire mouvement en direction de l'armée ennemie que les éclaireurs arrivent à localiser à tel ou tel endroit.
Ouais. D'accord.
Alors, de toute façon, rien ne se faisait à cette époque sans qu'on interroge les dieux. Donc, il est certain que la religion est omniprésente.
Mmh.
Mais malheureusement, les détails qu'on possède sont relativement minces. Donc là-dessus, j'ai fait effectivement une étude sur ce qu'on savait, ce qu'on pouvait dire. Mais, et encore, c'est toujours pareil. Vous avez là, ce sont des termes latins qui ont un sens dans le milieu latin, dans les milieux romains, mais est-ce que c'est exactement, est-ce que les Gaulois accordaient donc à ces choses-là le même sens que leurs ennemis ? Ça, nous ne le savons pas, puisqu'on ne leur a pas donné la parole.
Oui. Du côté romain, évidemment, aussi, le monde religieux intervient fortement dans la conduite de la guerre et aussi dans la déclaration, la décision d'entrer en guerre. Et là, c'est beaucoup plus documenté. Alors, je renvoie, pour ceux que cela pourrait intéresser, au livre de Jean-François Chemin, intitulé « La guerre juste », aux éditions des CIM, avec une préface, là aussi, de Yann Le Boeck, d'ailleurs. Donc, il étudie cet aspect, la conception de la guerre juste chez les Romains, sous la période magique, entre guillemets, puis avec la religion romaine, et enfin avec la christianisation. Et donc, on voit bien le rôle du religieux dans cet aspect militaire. Et là, bien sûr, c'est davantage documenté. Enfin, alors, vous avez quand même pu rassembler quelques informations en ce qui concerne les Gaulois. Et vous reprenez effectivement les appellations latines, romaines, avec le votum, la devotio. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots de ces rites et de ces façons de faire gauloises, pour ce qu'on en sait ?
Ce sont des termes latins qui ont été transposés donc par les auteurs latins au monde gaulois. Le votum, bien tout simplement, on fait le vœu donc aux divinités de faire telle ou telle chose si elles nous donnent la victoire. La devotio, c'est à ce moment-là le chef qui, comme le nom l'indique, se dévoue. Il fait le don de sa personne aux divinités si elles lui donnent la victoire. L'exécratio, il s'agit de jeter l'anathème sur l'ennemi, donc c'est une cérémonie d'exécration, hein. Ça s'approche de la sorcellerie. Voilà.
Oui. C'est assez barbare pour le coup, l'exécratio. Ça se traduit de façon barbare, pratiquement.
C'est-à-dire que oui, on voue aux gémonies, si vous voulez, l'ennemi, hein, donc, et tous ceux qui l'entourent. Tout ceci, évidemment, n'a pas grande valeur sur le plan militaire, encore que ça devait quand même relativement impacter les esprits, je pense, parce que comme les gens n'entreprenaient rien au début de la journée sans interroger les sorts, je pense qu'effectivement, quand ils avaient connaissance de telle ou telle chose, ça pouvait évidemment soit les dynamiser, soit au contraire ramollir leur esprit de résistance, oui, et leur combativité.
On voit que les Romains jugent avec horreur, hein, du point de vue de leur morale, hein, ce rite d'exécratio. Hein, ils le jugeaient abominable.
Il y a une chose qu'il faut dire aussi, c'est que tout le récit de la guerre des Gaules, évidemment, est connu, cette livre par César lui-même et le dernier par son légat Hirtius, celui de l'année 51. Il y a deux familles dans le monde romain. Il y a ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Donc César, tout en ayant occupé la fonction de grand pontife, ne croyait absolument à rien. Et du reste, ça lui a joué quand même un très mauvais tour le matin de son assassinat, parce que sa femme, entre autres, mais un certain nombre de ses amis qui avaient interrogé les sorts, lui avaient déconseillé de se rendre au Sénat, parce qu'il ne s'en coupait pas les choses. Mais César n'en avait cure.
Oui.
Donc, on le sait, Suétone le dit, César ne tenait absolument aucun compte de ce que pouvaient dire les prophètes, les prophétesses, et puis ceux qui prenaient les auspices. Hein. D'ailleurs, il y a une célèbre phrase de Cicéron qui, à un moment donné, je ne sais plus exactement quel est le titre de son ouvrage, mais quand deux aruspices se rendent compte, qu'est-ce qu'ils font ? Ils éclatent de rire. Mais cela dit, il y a aussi dans le livre que j'ai pu écrire avec David Romeuf sur les derniers jours du siège d'Alésia, paru aux éditions Les Médites, donc en 2019, on avait fait l'inventaire. Et on a d'ailleurs retravaillé là-dessus depuis donc 7 ans maintenant, à telle enseigne que l'année prochaine, l'association des amis des études celtiques a prévu d'organiser un colloque à Paris sur justement cette fameuse éclipse d'Alésia.
Ah, d'accord, très bien.
Alors, tout le monde n'est pas d'accord, hein, bien sûr, mais ça c'est comme ça la recherche, hein. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord, mais ceci dit, Moi, personnellement, je veux bien qu'on ne soit pas d'accord avec ces hypothèses, mais encore faudrait-il, quand on n'est pas d'accord, qu'on dise pourquoi et qu'on cite là-dessus des sources. Or, je constate quand même qu'aujourd'hui, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, mais ils ne disent pas pourquoi ils ne sont pas d'accord.
Oui.
Donc, je
Bon.
pense quand même que cette hypothèse a de sérieuses raisons d'être valable et on nous a opposé le fait que César n'en parle pas. Mais évidemment, César n'avait aucun intérêt à en parler, puisqu'il n'y croyait pas lui-même. Donc, et puis en plus, ça relativisait sérieusement sa victoire. Puisque effectivement, si d'abord à Bourges et ensuite à Alésia, l'armée ennemie, l'armée gauloise, donc, est ébranlée par les signes qu'elle a pu voir pendant la nuit, où est la valeur du chef de l'autre côté?
Oui, son mérite est diminué, bien sûr. Écoutez, je rappelle tout d'abord aux auditeurs qu'ils sont à l'écoute de Radio Courtoisie, le libre journal de la France profonde, émission qui a été exceptionnellement préenregistrée. Voilà, donc elle n'est pas diffusée en direct. Et j'ai le plaisir de recevoir Alain Débert, historien, à propos de son livre intitulé Les armées gauloises et celtiques, qui a été publié aux éditions Ellipse. Alors, Alain Débert, pour en terminer peut-être avec les pratiques magiques et superstitieuses ou religieuses, comme on voudra, dans ce monde gaulois, nous avons déjà mis un pied, si je puis dire, dans le macabre. Terminons, si vous voulez bien, avec le sensationnel. Que pouvez-vous nous dire de la pratique de sacrifice humain dans le monde gaulois et notamment dans le cadre guerrier?
Oui, alors l'histoire du sacrifice humain a fait couler beaucoup de salive et beaucoup d'encre. Et il y a eu beaucoup de fabulations autour de ces sacrifices. Ils sont bien réels, mais de toute façon, ce n'est pas un cas exceptionnel dans les sociétés anciennes, hein, puisque sur de très très nombreuses sociétés, que ce soit en Orient, en Asie du Sud, du Sud-Est, des Amériques, le sacrifice humain est une réalité. Donc, on sacrifie des vies humaines à des dieux. Donc, César l'évoque effectivement. Maintenant, est-ce qu'il était réellement pratiqué au moment où il était en Gaule, ou est-ce que certains pensent que c'était un rite qui était plus ancien, qui avait été abandonné et dont César avait entendu parler par des textes, par des prédécesseurs. Bon, moi je veux bien, mais je n'en suis pas certain du tout, parce que les sacrifices par le sang et par le fer, ou par d'autres moyens, par l'eau, par le feu, etc., c'est une réalité des pratiques dans tout le monde celtique.
D'accord. Bon, mais
Voilà.
écoutez, il
Et
reste. Oui.
à l'occasion des fouilles, d'ailleurs, que j'ai pu réaliser sur le site du champ de bataille d'Orange, c'est une bataille donc, qui s'est déroulée le 6 octobre 105 avant Jésus-Christ. On a effectivement un certain nombre de fosses à sacrifice qui contiennent des restes humains et de chevaux. Et puis, on a une scène de massacre à quelques kilomètres de distance de là, qui est de la même époque, gigantesque, où alors là, ce sont des dizaines de corps d'hommes, de femmes, d'enfants, de chevaux qui ont été sacrifiés. Et ce qui est intéressant, c'est que le texte, nous avons des textes qui le disent. Donc, le sacrifice humain existe bien dans la religion gauloise, ça, il n'y a absolument aucun doute.
Oui. Bon. Très bien. Merci pour ces précisions prudentes. Alors maintenant, revenons, si vous voulez bien, à l'organisation militaire elle-même et notamment, pour commencer, à la structuration des armées gauloises.
Oui.
Quels en sont les fondements?
Alors là-dessus, bah, j'ai effectivement écrit un chapitre qui est assez long, hein, puisqu'il fait plus de 130 pages. au total. Et en fait, la structuration des armées, contrairement à ce qu'on a dit, malheureusement, et il y a encore des auteurs qui se permettent de décrire ça, mais les armées gauloises se sont organisées au fil des ans. Et je pense, c'est l'hypothèse en tout cas que j'ai développée, au départ, ce sont des armées privées, dont s'entourent les nobles pour assurer leur défense, qui vont servir de noyau donc à l'armée de tout un peuple. Mmh. Voilà. Bon, on voit du reste les effectifs au fil des siècles qui vont grandir. Au début, c'est quelques milliers d'hommes et on termine par des centaines de milliers. Alors évidemment, derrière ces chiffres, il faut faire très attention, parce qu'encore une fois de plus, ce sont des chiffres que nous fournissent les historiens latins. Ils ont donc tout intérêt à grossir ces chiffres. Alors, ce que je voulais vous dire là-dessus, c'est que, mais ça, vous le verrez plutôt dans l'ouvrage sur les guerres gauloises. Mmh. Il y a des impossibilités. C'était d'ailleurs curieux parce que des générations d'historiens sont tombés dans le panneau sans rien voir. Mais quand César dit qu'en prenant la ville de Bourges, au printemps de 52 avant Jésus-Christ, il a massacré 40 000 personnes. Et si on réfléchit bien et qu'on regarde quelle était la superficie de la ville à cette époque-là, il est impossible que 40 000 personnes aient tenu dans cet espace. Mmh. C'est impossible. Et c'est la même chose à Alésia. César dit que l'armée de Vercingétorix à cette époque, enfin en tout cas si on accorde de la valeur à ce qu'il dit, aurait atteint l'effectif de 95 000 hommes, donc 80 000 fantassins et 15 000 cavaliers. Mais quand on connaît la superficie du plateau d'Alésia, ça ne tient pas. On n'arrive pas à les faire entrer dedans. Ou alors, ils se montent dessus. Oui. Hein, et il faut tenir compte du fait qu'il y a quand même des constructions, il y a des véhicules, il y a des habitants aussi qui sont là, même si une partie de ceux-ci s'est enfuie à l'annonce du siège. Donc, on voit bien que de toute façon, déjà, rien que là-dessus, vous avez deux exemples, il est impossible qu'il y ait eu 40 000 personnes à Bourges en 52 avant Jésus-Christ et plus de 95 000 personnes à Alésia quelques mois plus tard. Mmh. Voilà. D'accord. Et ça, donc je ne peux pas rentrer dans le détail à l'occasion de cette émission, mais je l'explique en long, en large et en travers dans mes deux livres. Donc ça relative sérieusement les effectifs qui sont cités dans les sources. En plus, il faut tenir compte du vocabulaire. Parce que quand il mentionne un effectif, César, et du reste, il n'y a pas que lui, mais ses prédécesseurs ou ses continuateurs, on ne sait jamais s'il s'agit d'un effectif théorique, d'un effectif réalisé ou d'un effectif présent. Et c'est trois choses différentes. L'effectif théorique, il correspond en gros aux capacités de mobilisation d'une armée au sein d'un peuple donné ou d'une coalition. Mmh. L'effectif réalisé, c'est celui qu'on parvient à réunir donc au lieu de mobilisation puis de concentration de cette armée, et ensuite l'effectif présent, c'est celui qui est sur le terrain le jour de la bataille. Et forcément, ce n'est pas les mêmes.
Ouais.
Il y a une évaporation extrêmement importante entre les trois étapes. Mmh. Donc, c'est une question, en fait, à laquelle il est difficile de répondre, dont on peut tourner les chiffres dans tous les sens, on n'a pas la réponse, parce qu'en fait, soit ça ne les intéressait pas, soit ils avaient tendance, évidemment, à grossir les éléments. Alors, on a aussi un autre exemple pour l'année 58. C'est l'armée des Helvètes. Alors, j'ai préparé un ouvrage que j'envisage de publier dans le courant de cette année sur la bataille de Bibracte de 58 avant Jésus-Christ. César dit que dans les bagages des migrants, il aurait trouvé des archives dans lesquelles l'ensemble, les membres de la coalition auraient atteint plus de 300 000 personnes. L'armée helvète en aurait eu 92 000. Mais là encore, si on réfléchit deux minutes, c'est absolument impossible, parce que la tête de la colonne serait peut-être dans les environs de Bibracte au moment de la bataille, mais l'arrière n'aurait peut-être pas encore quitté le plateau helvétique. Et en fait, en réalité, les effectifs qu'il cite sont, à mon avis, un effectif théorique, puisque les responsables politiques helvètes avaient commencé leurs préparatifs 3 ans plus tôt, donc au cours de l'année 61. Et ils avaient procédé donc à un recensement des volontaires et des capacités, donc des possibilités pour migrer et aller s'établir dans le pays des Santons, donc au nord de la Gironde. Bon, mais en réalité, on le voit bien, là encore, cet effectif, il est sans doute vrai si on part du principe que c'est le recensement qui a été effectué avant la migration, mais ça ne correspond absolument pas à la migration. Oui, de plus, on est incapable aujourd'hui de situer où s'est déroulée la bataille. Donc, moi, j'en suis arrivé à la conclusion que c'était une histoire sans archéologie, et que, en fait, César a peut-être battu sur le terrain quelques bandes de migrants. Je pense qu'il y avait une étude qui avait été faite par un chercheur anglais avant la mienne, et on tourne aux alentours de 10 000 combattants chez les Helvètes. Donc, vous voyez, on passe de 92 000 à 10 000. C'est pas du tout la même chose.
Oui. Bon, très bien. Merci. Voilà, ça nous permet de mieux considérer le problème des effectifs et des sources que nous avons dessus. Donc, pour en revenir au contenu des armées, je voudrais que vous nous disiez quelques mots sur le type de troupes et d'unités qu'on y trouve. Alors, lors de notre précédent entretien, nous avions simplement évoqué l'artillerie pour dire qu'il n'y en avait pas dans le monde gaulois. Et peut-être, ou probablement pour des raisons pratiques climatiques. Voilà. Et quels autres types de troupes et d'unités peut-on trouver dans ces armées ?
De toute façon, les sources nous parlent régulièrement des unités d'infanterie jusqu'au début du IIe siècle. Il existe encore une charrue qui va être remplacée par de la cavalerie, mais ça, il y a des raisons pour cela que j'ai bien expliqué. Il y a des troupes légères d'archers, de frondeurs, de lanceurs de javelots. Il y a aussi des troupes de garnison qui sont plus particulièrement destinées à assurer la protection des populations qui restent sur le territoire pendant que l'armée est partie guerroyer à plusieurs kilomètres de là. Mmh. Alors, il n'y a pas d'artillerie. Il y a plusieurs raisons à cela. Il peut y avoir d'abord, parce que c'est quand même assez curieux, les Gaulois avaient une très longue tradition de mercenariat au service des princes orientaux. Donc ils ont été au contact avec les Grecs et ils ont forcément vu des machines de guerre. Il y a eu aussi des Gaulois dans les armées carthaginoises, il y en a eu pratiquement dans toutes les armées orientales ou africaines. Bien, pourquoi n'ont-ils pas créé une artillerie dans leurs armées ? Alors il peut y avoir deux raisons, à mon avis. La première, c'est une raison religieuse qu'on ne comprend pas, à laquelle on n'a pas l'explication. Bon, la deuxième raison, mais par rapport à la première, je ne dirais pas que c'est elle que je privilégie, c'est tout simplement sous les latitudes, les latitudes sous lesquelles les Gaulois vivent, l'artillerie ne sert pas à grand-chose, parce que quand il y a de l'humidité, s'il pleut, s'il fait froid, s'il y a de la neige, etc., ça distend complètement les câbles, si vous voulez, qui servent à la tension des pièces d'artillerie.
Oui.
Bon. Alors, je pense du reste que les Romains eux-mêmes ne pouvaient pas utiliser leur artillerie dans tous les cas d'espèce. Quand le temps était favorable, oui, l'artillerie pouvait servir, mais je suis pas certain d'ailleurs que ça inquiétait beaucoup les Gaulois, parce que ils avaient des milliers d'archers, et les archers sont peut-être plus efficaces que les artilleurs. Parce que, ne l'oublions pas, c'est pas une artillerie à poudre. Donc, de toute façon, si un boulet ou un trait pouvait faire des dégâts et abattre éventuellement des palissades, mettre le feu à l'intérieur d'un oppidum ou d'un hill-fort, ou éventuellement abattre d'un seul coup plusieurs rangées de combattants, ça n'allait pas plus loin.
Oui. D'accord.
En plus, cette artillerie, elle n'est pas très manœuvrière quand même, parce que ce sont des pièces en dehors des arbalètes qui équipaient donc l'armée romaine. Il y avait des grosses pièces d'artillerie extrêmement compliquées pour arriver à les mettre en batterie. Et oui. Puis, à force de tirer, comme ce sont des armatures en bois et en métal, ça se disloque. Donc il fallait arrêter le tir et puis resserrer les pièces, ce qui nécessite du temps. On le voit bien au siège de Gergovie, par exemple. Au siège de Gergovie, l'artillerie de César a très très peu servi.
D'accord. Bon, très bien.
Bon, alors c'est une question à laquelle, malheureusement, je ne peux pas répondre. Je voulais donner les deux hypothèses.
Oui.
S'il y en a d'autres, je ne les connais pas et je ne vois pas très bien ce qui permettrait de... Je ne sais pas.
Bon, je vous en remercie. Écoutez, alors pour le reste, on peut dire que un peu tous les styles de combattants sont présents, quoi, de l'infanterie... aux archers, frondeurs, lanceurs de javelots, etc., la cavalerie, c'est assez complet finalement comme type d'armée.
C'est une armée qui, comme les, plus tard les armées médiévales, hein, si vous voulez, où chacun a une spécialité, un rôle à jouer, a une place à tenir au cours de la bataille. Voilà, alors évidemment, le nombre des archers est extrêmement important parce qu'ils ne sont pas chers. Il vaut mieux utiliser des archers qui, d'ailleurs, en général, être archer, c'est le début d'une carrière militaire. Mais les hommes d'armes, qui viennent après, ont déjà un équipement beaucoup plus lourd et beaucoup plus coûteux.
Oui,
bon, alors, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas expliquer parce qu'on n'a pas de source là-dessus. Bon, c'est par comparaison, évidemment, qu'on peut proposer des hypothèses, hein, je le dis encore, hein, j'insiste beaucoup là-dessus. Mais on n'est pas du tout en présence d'armées inorganisées, de braillards, de gens qui gesticulent dans tous les sens, etc. Non, ça, c'est ce qu'on appelle un topos, c'est-à-dire une image qui n'a aucune réalité.
Oui, je vois. Bon,
de toute façon, il faut bien se dire une chose, c'est que si on y réfléchit, on regarde les armées gauloises face aux armées romaines. Les armées gauloises ont toujours été victorieuses face aux armées romaines jusqu'à la fin du IIIe siècle avant notre ère. Les choses ont commencé à changer après, mais je dis à changer lentement et en partie. Pourquoi ? Parce que Rome a tiré des enseignements de sa guerre contre Carthage, d'une part, et d'autre part, de ses campagnes en Espagne, d'autre part, sur un terrain qui est très particulier. Et notamment, c'est l'invention des manipules qui sont au sein des cohortes donc n'existe pas encore à cette époque-là. Il y aura des cohortes, évidemment, au 1er siècle, mais les manipules sont des petites unités extrêmement mobiles. Donc, avec un système, un petit dispositif en damier, mais les Gaulois vont rester quand même, et puis même au cours du 1er siècle, il ne faut pas oublier une chose, c'est quand même, César a perdu les effectifs d'environ 2 légions à Gergovie, et il avait perdu une légion entière avant chez les Éburons, en 54, 2 ans plus tôt, dans une embuscade d'armée que lui avait tendue, qui avait été tendue à deux de ses légats par le roi Éburon en Biorix. Donc, ce qui veut dire que l'armée romaine n'était pas la meilleure armée du monde non plus à cette époque-là.
Oui. Oui. Merci pour ce rappel, c'est très intéressant.
Bon, et puis, César, en tant que généralissime, il commet des erreurs. Comment dirais-je, le système de reconnaissance est relativement déficient dans l'armée romaine. Ensuite, César va lancer ses légions aussi à l'attaque en montant. C'est une aberration complète. On n'attaque jamais en montant. En tout cas, maintenant, dans les armées, on ne fait plus ça. Et on le sait parce qu'on a eu la guerre de 14 là-dessus. Hein, donc, on y a laissé des milliers d'hommes. Et César, donc, il n'est pas si bon chef de guerre que ça. Hein. Il faut bien le dire, c'est tout.
Oui. Bon, très bien. Écoutez, je voudrais vous poser une dernière question. Et puis, nous devrons...
Alors, d'ailleurs, c'est dans le livre que j'ai consacré à la grosse biographie que j'ai écrite sur Vercingétorix, qui est paru aussi chez Ellipse en 2023, où j'ai établi une comparaison entre les armées gauloises et les armées romaines. Je l'ai repris un petit peu dans les guerres gauloises, mais surtout là en détail, et notamment où j'ai comparé les qualités militaires de Vercingétorix et celles de César. Et vous y trouverez des choses assez surprenantes.
Bon, très bien. Alain Débert, l'heure tourne impitoyablement. Je voudrais évoquer peut-être un dernier aspect avec vous aujourd'hui, avant de vous réinviter pour poursuivre notre discussion, si vous en êtes d'accord et si les auditeurs m'en émettent le souhait. Voilà, chers auditeurs, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques concernant cette émission, les émissions en général du Libre Journal de la France Profonde, donc par courrier à l'adresse de la radio ou par le site internet, et cela me sera transféré. Je voudrais avec vous, Alain Débert, peut-être terminer cet entretien par la question du soin aux blessés. Évidemment, ceux qui veulent des détails doivent se procurer le livre, hein, « Les armées gauloises et celtiques », paru aux éditions Ellipse. Hein, nous n'allons pas évoquer tous les thèmes traités rigoureusement dans le livre. Hein, ce n'est pas le but et nous n'avons pas le temps, à vrai dire. Hein. Donc je passe par exemple sur la question de la logistique. Mais voilà, je me dis que ça pourrait être intéressant d'évoquer auprès des auditeurs la question du soin aux blessés et aux malades lors des campagnes militaires. Quelle attention leur portait-on dans le monde gaulois ?
Oui, alors excusez-moi, mais je n'ai pas très bien compris votre question,
oui.
S'il vous plaît.
Lors des guerres gauloises, quand il y avait des combattants gaulois blessés ou malades, est-ce qu'on les négligeait ? Est-ce qu'on les méprisait ? Ou est-ce qu'au contraire... On s'occupait bien d'eux. Est-ce qu'on avait un vrai souci d'eux et de quelle façon cela s'organisait-il? Quel degré d'humanité, si vous voulez?
Alors là, je crains malheureusement, je crains le pire. Hein. Je crois que en dehors des chefs qui avaient des trousses de chirurgiens avec eux et peut-être qui avaient engagé des médecins qui avaient été formés en Grèce ou à Rome. Le combattant de base, on ne devait pas s'en occuper beaucoup. Hein.
Ouais.
Bon, voilà. Donc, j'ai essayé un petit peu de répondre à cette question, effectivement, dans mes livres successifs. Je crains que les pauvres malheureux, de toute façon, il y a déjà une chose, c'est que, bon, bien évidemment, celui qui est tué, qui est tué simplement sur le champ de bataille, parce qu'il a pris vraiment un mauvais coup. Mais il y en a beaucoup qui étaient blessés, qui rentraient chez eux et qui étaient ensuite atteints, évidemment, par la septicémie. Et encore, la septicémie, parfois, il n'a même pas le temps de rentrer chez eux, hein, parce que je pense que le soir même, déjà, elles devaient avoir gagné leur corps. Donc, non, hélas. Alors, le problème qu'on a, c'est que on pourrait sans doute répondre à ces questions, mais l'archéologie, malheureusement, ne se préoccupe pas beaucoup de ce problème-là. Donc, d'abord, sur les champs de bataille, il y en a très peu qu'on connaît, et les ossements qu'on peut découvrir ne font pas l'objet d'une étude avec des médecins légistes, avec des spécialistes, pour savoir exactement quelle a été l'origine de la mort. Bon. Donc, on a trouvé dans le passé des milliers de restes humains sous forme de squelettes, mais à ce que je sache, il y a eu très peu d'études qui ont été réalisées sur ceci. Et donc, par conséquent, on ne peut pas non plus répondre, parce que si une étude d'un cadavre est bien réalisée, même s'il est à l'état osseux, je pense que un jour, peut-être, on parviendra à apporter des réponses à la question que vous avez posée, mais aujourd'hui, c'est quasiment impossible. Bon, il est certain que un cavalier, un chef, coûte beaucoup plus cher qu'un simple guerrier. Donc, il est certain qu'on devait certainement soigner en priorité ceux qui constituaient l'élite des guerriers.
Bien sûr.
Et malheureusement, le pauvre type qui, lui, ne représentait rien, n'oubliez pas que ce que César dit, c'est que les membres de la troisième classe sociale chez les Gaulois, ce sont pratiquement des esclaves, donc ils comptent absolument pour rien.
Ouais, bon, ça c'est César qui le dit. Bon, très bien,
Bon,
écoutez,
et
Alain Débert, merci beaucoup. Oui, nous allons devoir nous quitter. J'aurai plaisir à vous recevoir à nouveau, si le cœur vous en dit, pour continuer à explorer ces thèmes, hein. Nous pourrions parler, par exemple, de la question du commandement dans les armées, des chefs de guerre. Nous pourrions parler
oui.
aussi des opérations de mobilisation, l'appel aux armes, comment cela se passe, ou de la vie quotidienne des guerriers. Nous avons aussi éventuellement à voir la question de l'armement et de l'équipement, la question des animaux et leur rôle dans les armées gauloises, et puis évidemment la stratégie, la tactique, le renseignement. Sans parler du combat proprement dit. Enfin, il y a beaucoup de choses qui me semblent intéressantes à aborder. Donc, je vous ferai signe prochainement, si vous en êtes d'accord, et puis si les auditeurs manifestent aussi
Oui, bien sûr,
leur intérêt, ce dont je
très
ne doute pas.
volontiers,
Oui.
très volontiers.
Bon, merci beaucoup, Alain Débert. Je rappelle que vous êtes l'auteur des armées gauloises et celtiques aux éditions Ellipse. Je vous dis à très bientôt. Et chers auditeurs, nous nous retrouvons dans quelques instants après un très bref intermède musical. Pour notre seconde partie à propos de Saint Jean l'Évangéliste.
Nos émissions, vos émissions viennent à vous. Un nouvel élan pour Radio Courtoisie. Politique, société, religion, littérature, histoire, culture. Sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr.
Voilà, donc nous nous retrouvons sur Radio Courtoisie, le libre journal de la France profonde, émission qui a été préenregistrée le 16 juillet 2026. Et pour cette deuxième partie, j'ai le plaisir de recevoir, encore une fois, Morissette Vial-Andru. Bonsoir, madame.
Bonsoir, bonsoir, monsieur, et bonsoir aux auditeurs.
Merci d'être avec nous une nouvelle fois. Voilà, je rappelle que vous êtes l'auteur de nombreux livres, petits livres et fascicules, principalement à destination de la jeunesse, sur l'histoire, et en particulier l'histoire chrétienne. Et là, j'ai entre les mains un petit livre, donc aux éditions Saint-Jude, comme souvent avec vous, un petit livre intitulé « Saint-Jean, l'évangéliste ». Et quand je l'ai vu passer, je me suis dit, tiens, évidemment, pourquoi ne pas évoquer cette figure capitale hein, dans le christianisme et donc dans l'histoire de l'humanité, et puis aussi une figure magnifique, dont voilà, peut-être beaucoup de gens aujourd'hui ne connaissent pas grand-chose, finalement. Alors, ce petit livre, vous l'avez écrit au présent, comme on raconte une histoire hein, dans laquelle on peut s'immerger, et mieux s'immerger, hein, c'est ça. Donc, c'est une démarche un peu différente des précédents ouvrages que j'avais abordés avec vous. Alors, ce livre, vous l'avez rédigé au présent, hein, comme donc un récit dans lequel on peut mieux s'immerger, j'imagine notamment pour les jeunes. J'imagine cette démarche. Je disais que donc, ce petit livre, vous l'avez écrit au présent, comme un récit, dans lequel on peut mieux se plonger. J'imagine que voilà, c'était l'objectif, notamment pour les jeunes lecteurs, qu'ils puissent mieux s'insérer dans cette histoire.
Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Bon. Le présent, c'est beaucoup plus direct pour les jeunes. Donc, j'écris la plupart du temps au présent. Oui.
Et vous commencez votre récit avec, bien sûr, la rencontre. Hein, vous ne vous attardez pas tellement sur ce qu'il y a auparavant, en ce qui concerne Saint-Jean. D'ailleurs, je ne sais pas si on en sait beaucoup, mais vous commencez directement avec la rencontre avec le Christ. Juste auparavant avec Saint-Jean-Baptiste tout de même, qui est évidemment une autre figure majeure, mais vous rencontrez, vous commencez directement avec cette rencontre de Jean et son frère, puisqu'ils vont par deux, hein, Jacques et Jean. Vous commencez avec cette rencontre, est-ce que vous pouvez la rappeler peut-être aux auditeurs ?
Il n'est pas avec son frère, il est avec André. André, son ami, ils travaillent ensemble. Bon, son frère, c'est Jacques oui. Le majeur.
Oui.
Voilà. Donc, Jean a eu l'occasion d'entendre le Baptiste au gué de Bétabara, sur le Jourdain, et il a été effectivement enthousiasmé, parce que le Baptiste a annoncé la venue du libérateur. Or, pour tous les Juifs, à l'époque, on attend le Messie qui va libérer le pays des Romains, de l'occupation romaine. Donc, Jean est absolument retourné au guet de Bétabara. Et c'est là que le Baptiste, qui a été très impressionné par ce jeune garçon, qui est très pur, très innocent, très enthousiaste, va lui montrer l'agneau de Dieu. Quand Jésus passe, il lui dit « Le voici, c'est lui l'agneau de Dieu ». Et Jean, avec André, n'hésite pas, il va suivre Jésus et il va rester près de lui plusieurs heures et il va être persuadé que c'est vraiment le Messie, c'est-à-dire celui qui va les libérer. Voilà.
Oui, d'accord.
C'est comme ça que je commence le récit, en m'appuyant sur l'Évangile, bien sûr.
Oui, très bien. Et Ce qu'on sait de Jean aussi, alors là, je ne suis pas tout à fait le fil de votre livre, mais un petit mot sur ce qu'on sait du caractère de Jean. Jésus leur a donné, à lui et son frère Jacques, le majeur, leur a donné un surnom. C'est quand même c'est étonnant et,
oui,
et amusant, et touchant,
oui, oui.
Un surnom éloquent.
Les fils, oui, il les a appelés les fils du tonnerre, parce que Jean est très enthousiaste, mais il se met facilement en colère. Donc, un jour, il a été mal accueilli dans un village, et avec André, d'ailleurs, et ils ont demandé à Jésus de déclencher la foudre sur ce village. Et Jésus a dû les calmer.
Oui.
Il les a appelés les fils du tonnerre. Oui.
Oui, c'est ça.
Alors, Jean est très enthousiaste, mais il est aussi très jeune, il est très pur. Il est très innocent, il ne connaît rien de la vie, en fait. Et c'est ce qui est attirant chez lui. C'est qu'il est ouvert. Il est ouvert à tout et il est en admiration devant le Christ. Et il va se mettre à l'aimer de tout son cœur. Et c'est très, très touchant.
Oui. Il va le suivre. Il ne va plus le quitter depuis cette rencontre.
Il ne va plus le quitter. Il est prêt à le suivre. Parce que il croit en lui, pour lui c'est le libérateur. Mais effectivement, il y a un petit quiproquo là, parce que pour les Juifs, le libérateur c'est celui qui va arriver avec des soldats pour chasser les Romains.
Oui.
Or, ce n'est pas du tout cela. Le royaume de Jésus n'est pas de ce monde, il est spirituel.
Oui, donc, oui, ils attendaient un messie temporel.
Voilà.
Ils auront du mal à l'admettre. Hein. Jusqu'à la fin, le Christ leur dira, mais vous n'avez toujours pas compris,
voilà.
assez tardivement.
Et peu à peu, Jean, lui, qui est tout jeune et tout très ouvert, va peu à peu méditer pour essayer de comprendre les paroles de Jésus. Et bon, il aura des difficultés, comme les autres, mais peu à peu, il va prier, méditer et comprendre un peu mieux qui est le rabbi, c'est-à-dire le maître. Voilà.
Oui, Jean est présent à de très nombreux épisodes importants qui nous sont relatés de la vie du Christ, hein, notamment
les miracles
les plus connus.
Il assiste à beaucoup de choses. Il est aux noces de Cana, donc il voit le premier miracle.
Oui.
Et puis il verra. Il est aussi au premier, quand Jésus arrive à Jérusalem pour la Pâque et qu'il se fâche contre les marchands du temple, il est là. Et il voit le Christ dans toute sa force,
son autorité,
sa colère.
Oui.
Quand on a été coupé, je parlais du moment où Jésus s'exprime en disant « Je suis le pain de vie, le pain descendu du ciel ». Et Jean est là et il est triste parce qu'il voit que, après ces fortes paroles, beaucoup de disciples abandonne le rabbi et s'en vont. Donc pour lui, il ne comprend pas. Cela le révolte, en fait. Mais oui, parce qu'il pense que les gens sont bien difficiles à convaincre. Enfin, tout de même, pour lui, c'est évident que Jésus est l'envoyé de Dieu.
Oui.
Donc, voilà. Et puis, il assiste à d'autres miracles. L'aveugle né, par exemple, qui retrouve la vue. Et surtout la résurrection de Lazare.
Ah oui.
Alors il est là dans le groupe des disciples et il assiste à la résurrection de Lazare. Donc c'est quelque chose pour lui de tout à fait étonnant, mais en fait il admet parce que Jésus est l'envoyé de Dieu, donc il peut tout faire. Et c'est après cela que la Pâque va se dérouler avec le cénacle, tout ce qui se passe. Alors, au cénacle, c'est émouvant, le cénacle.
Oui.
Quand Jean se penche sur la poitrine de Jésus pour savoir qui est le traître, bon, ben là, il est très près de son maître. Hein.
Oui.
C'est une très belle scène.
Scène fameuse, souvent illustrée. Oui.
Oui. Et Jésus, d'ailleurs, va parler de l'amour. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Donc, pour Jean, cet envoyé de Dieu, c'est l'amour. Et il dira d'ailleurs, Dieu est amour.
Oui.
Il est le premier, le seul des disciples à dire cela.
Et son évangile, on l'a appelé parfois l'évangile de l'amour. Enfin, c'est un évangile qui met particulièrement l'accent sur l'amour. L'amour de Dieu.
L'amour.
L'amour de Dieu envers les hommes. D'abord. Oui, oui. Et
exactement.
C'est tout de même étonnant. Donc, cette dilection que le Christ manifeste pour Jean, qui est appelé dans la Sainte Écriture à plusieurs reprises le disciple bien-aimé. Non pas que les autres l'aient été moins, ou n'aient pas été aimés, mais en tout cas, il y a une dilection du Christ pour cet apôtre.
Oui. Et il y a aussi cette scène magnifique au pied de la croix, quand Jésus confie sa mère à Jean. « Femme, voilà ton fils. » Et puis, il dit à Jean, « Jean, voilà ta mère. » Et Jean comprend. Il comprend tout de suite qu'il va prendre Marie avec lui et la protéger.
Donc,
C'est une belle marque d'amour. C'est une grande marque de confiance.
Ah oui. Donc, il aura le privilège de côtoyer donc la Sainte Vierge pendant un moment, pendant longtemps.
Exactement. Et il aura le privilège de l'entendre parler de Jésus, de son enfance. Il mesure la souffrance de Marie aussi. Et en même temps, sa joie au moment de la résurrection. Donc, ce sont des choses très difficiles à exprimer par écrit. Et au début, Jean ne veut pas écrire. Il a décidé de ne pas écrire. Il n'écrira que beaucoup plus tard, quand il aura médité pendant une trentaine d'années les paroles du Christ, et surtout quand Jésus lui apparaît en lui demandant d'écrire. Alors là, il obéit. Mais sinon, il n'a pas envie d'écrire.
Alors là, vous faites allusion à l'Apocalypse, je suppose.
Oui.
La demande de...
On n'écrit pas sur celui qu'on aime.
Oui, oui. Il y avait aussi une attente.
On a du mal à trouver les mots.
Oui.
Donc, il n'avait pas du tout envie d'écrire au départ.
Oui.
Il pense que Luc qui est venu voir la Sainte Vierge, va le faire. Et c'est très bien. C'est très bien comme ça. À un moment, il se dit, c'est très bien ainsi. Moi, je l'écrirai. Il se décidera après une apparition de Jésus qui le lui demande. Alors, il y a des choses, bien sûr, qu'on ne sait pas.
Oui.
Il y a des blancs. Jean est-il venu vraiment, a-t-il vraiment été appelé à Rome pour être jugé? A-t-il vraiment été trempé dans une chaudière d'eau bouillante dont il serait sorti sain et sauf? Bon, la tradition le dit, mais on ne sait pas si c'est réel. En tout état de cause, il est allé en SS. Là, les archéologues ont découvert des traces, en particulier les ruines d'une basilique dédiée à la Vierge Marie. Donc, c'est quand même une preuve. Et puis, il est allé à Patmos, donc sur ce petit rocher-là, ce petit rocher dans la mer Égée où il n'y a rien du tout. Il a exilé là par Rome, qui en avait assez de le voir, et donc il avait exilé sur ce petit rocher.
Oui. Et vous avez vu.
Il va vivre.
Oui.
Une vieillesse assez paisible. Il reviendra à Éphèse plusieurs fois. Il crée des églises, des groupes, des communautés chrétiennes. Et il envoie des lettres. Alors, malheureusement, nous n'avons que 3 épîtres de Jean qui nous sont restées. Mais il en a certainement beaucoup plus parce qu'il veille sur les chrétiens. Il y a déjà les premières hérésies qui apparaissent,
oui.
En particulier les Nicolaïtes du diacre Nicolas. Alors là, c'est assez terrible parce que ils considèrent que tout ce qui est matériel est mauvais. Donc le Dieu créateur de l'Ancien Testament est mauvais parce qu'il a créé l'univers. Donc on retrouvera ça chez les cathares.
Oui,
chez les cathares.
Dans le gnosticisme en général, oui.
Oui, voilà, on retrouve ça.
Alors Saint Jean vit très vieux, aux alentours de 100 ans, dit-on. Et puis c'est le seul apôtre qui ne meurt pas d'une mort violente.
Violente, oui. Non, il ne meurt pas d'une mort violente. Il a une vieillesse, semble-t-il, paisible, et il meurt très très vieux.
Et avec lui,
il meurt vers l'an 101. Ouais. Donc il est âgé, il est très très âgé.
Et avec lui se clôt la révélation, puisque on considère,
voilà,
chez les catholiques,
que l'Apocalypse
se clôt avec la mort du dernier apôtre. Ouais.
Voilà.
Alors oui, un petit mot de l'Apocalypse, parce que Saint Jean, c'est bien sûr l'auteur d'un des quatre évangiles. Il a aussi écrit plusieurs épîtres, comme vous l'avez signalé. Mais il est aussi très connu pour être l'auteur de l'Apocalypse, texte un peu mystérieux qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a stimulé de nombreuses imaginations.
Oui, l'Apocalypse, c'est un message très spectaculaire. C'est la révélation, l'explication des choses cachées, avec énormément de signes et de symboles, et qui lui est dicté au fur et à mesure par un ange qui vient par des visions, qui lui montre ce qui va se passer, toutes ces choses, la fin du monde, le jugement de Dieu. Et alors il prend des symboles très très forts. D'abord, il n'a pas envie que les persécuteurs des chrétiens comprennent son texte. Il voudrait que seuls les chrétiens comprennent. Alors, il rajoute des choses énormes, des animaux fantastiques, le dragon à sept têtes et 10 cornes, des choses terribles. Et puis, le livre des sept sceaux, évidemment. Mais tous les symboles ont un sens.
Bien sûr.
Bon, la bête, c'est Babylone, c'est Rome. C'est Rome avec toute sa puissance et qui lutte contre l'Évangile.
Les sept collines. Oui.
Les persécutions, bien entendu, qui vont suivre. Tout a un sens.
Alors, si vous permettez, je voudrais... Si vous permettez, je voudrais donner deux pistes de lecture pour ceux qui s'intéressent à l'Apocalypse, à ce texte. Tout d'abord, un livre qui a été réédité récemment aux éditions Xavier Barge, L'Apocalypse de Saint Jean, par le révérend père Sylvester Berry, qui aide à comprendre les messages et les prophéties et les symboles du texte de Saint Jean. Donc c'est un livre évidemment fort intéressant. Bon, par ailleurs, l'auteur y développe aussi quelques thèses originales qui sont les siennes et qui lui semblent adaptées à l'époque actuelle, troublée. Et puis aussi et surtout, je voudrais signaler un autre livre précieux, intitulé « Le sens mystique de l'Apocalypse » par le révérend père de Montléon, qui était un bénédictin, et qui propose un commentaire d'après la tradition des pères de l'Église. Donc c'est un ouvrage sûr et autorisé. Il a été publié aux éditions NEL, les nouvelles éditions latines. Et donc, sur la question de l'Apocalypse, c'est un des ouvrages, à mon avis, majeurs, en tout cas en français, pour mieux en saisir... le sens et la portée, sur ce fameux texte, souvent interprété de diverses façons, pas toujours sérieuses.
C'est très compliqué, l'Apocalypse. Bon, il y a cette bête, d'abord la bête qui représente Babylone, et puis la bête de la terre aussi, qui représente les faux prophètes. Et puis, il y a tous les symboles. Tout, absolument tout. Les couleurs, par exemple, les couleurs. Le blanc, c'est la pureté. Le rouge, c'est le meurtre. L'écarlate, c'est le luxe. Le vert, c'est la décomposition. Donc, on voit le symbole des chiffres. Chiffre 3, évidemment, c'est Dieu, c'est la Trinité. 7, c'est la perfection. Et ainsi de suite. 6, c'est l'imperfection. Bon, on trouve aussi les yeux. Les yeux dans l'Apocalypse représentent la connaissance. Et une main, c'est la puissance. Et la corne, c'est la force. Donc, tous les ailes, c'est la mobilité. Tout est symbole dans ce texte. Et puis, évidemment, on voit une femme magnifique aux 12 étoiles. Alors, on pense, enfin, les pères de l'Église pensent que c'est à la fois l'Église et la Mère de Dieu. Sans doute, oui, les deux.
Mmh, mmh. Très bien.
Donc, voilà.
Bon.
Et on voit dans cet Apocalypse tout ce qui va se passer. Les martyrs, les saints, les persécuteurs, tout.
Oui, oui, les différentes phases de l'histoire de l'Église et donc du monde sont présentées.
Bon. Oui, c'est très difficile à lire, d'ailleurs. Il faut le lire petit à petit, phrase par phrase, parce que
ouais.
tout est signe, à la fois signe et symbole. Donc, voilà.
Alors, les ésotéristes, évidemment, s'en sont donnés à cœur joie autour de Saint Jean et de ses textes. Alors, notamment certains, voilà, certains ésotéristes et gnostiques qui prétendent qu'il y aurait une église de genre secrète et initiatique et mystique face à l'église de Pierre institutionnelle. Mais ça, ce sont des théories d'une part très récente, je crois, 19e, et puis évidemment qui ne tiennent pas la route. Il n'y a aucun fondement scripturaire ni antique.
Oui, oui, oui.
Et puis on a tout un tas d'éléments qui permettent de balayer ces théories totalement farfelues, ne serait-ce que la vie et les écrits de Saint Irénée, qui a combattu d'ailleurs les hérésies et gnostiques en particulier. Saint Irénée, qui a été un disciple de Saint Polycarpe de Smyrne, qui lui-même a été disciple de Saint Jean l'Évangéliste. Donc, et voilà, on voit bien que Saint Irénée est dans la filiation de Saint Jean et qu'il ne donne prise à aucune des fables ésotéristes qu'on peut parfois entendre.
Ouais. Exactement.
Très bien, écoutez, nous allons devoir nous quitter dessus. Merci de cette évocation de Saint Jean. Et je rappelle, Morissette Vialandru, que vous êtes l'auteur donc ce petit livre, donc plutôt pour les jeunes, un récit au présent, intitulé « Saint Jean l'Évangéliste » aux éditions Saint Jude. Merci madame et à bientôt.
Merci, à bientôt.
À bientôt.
À bientôt, au revoir.
Au revoir et au revoir chers auditeurs.
Vous venez d'entendre le Libre Journal de la France Profonde, dirigé par Thibaut de Chassé. Émission préenregistrée le 16 juillet 2026 et diffusée sur Radio Courtoisie jeudi 23 juillet de 21h30 à 23h et réalisée par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.